Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Tous les ans, le mois d'octobre est consacré à l'information sur le cancer du sein qui est le plus fréquent dans la population féminine. On estime à 1 600 000 le nombre de nouveaux cas chaque année, dont la moitié dans les pays en développement. Octobre rose permet de rappeler que le dépistage du cancer du sein est recommandé tous les 2 ans à partir de 50 ans. On progresse dans ce domaine, mais en France, avant la mise en place de ce dépistage organisé, 30% des femmes concernées se faisaient dépister à titre individuel. Aujourd'hui, ce sont les 2/3, donc on a avancé, mais il reste encore une femme sur 3 qui ne se fait pas dépister. Alors pourquoi ? On sait que le cancer du sein se soigne dans 9 cas sur 10 quand il était détecté à temps. Alors comment améliorer ce dépistage ? Quelles sont les dernières avancées dans les traitements ? Comment les rendre accessibles dans les pays en développement ? Comment aussi mieux accompagner d'ailleurs les femmes dans l'après-cancer ? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur Nasrine Khaleh, qui est gynécologue à l'Institut Curie. Et si vous avez envie de lui poser des questions, vous pouvez nous appeler au 33 1 80 82 75 75. Dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Madanili, qui est cancérologue au service d'hématologie et d'oncologie médicale au CHU de Bamako au Mali. Et également au téléphone Patricia Nzolantima, qui est fondatrice de Kinshasa Rose, dont l'objectif est de venir en aide aux femmes atteintes de cancer du sein. Docteur Nasrine Khaleh, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, de revenir, je dirais, dans Priorité Santé. Vous nous aviez déjà parlé longuement du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, on va parler du cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose. À cette occasion, l'Institut Curie publie chaque année un baromètre cancer. Qu'est-ce qu'il ressort de ce baromètre cette année ?
Alors, au niveau donc de l'Institut Curie, qui est le premier centre de traitement des cancers du sein en France, il sort que malheureusement, il existe beaucoup de cancers du sein dans le monde et en France, puisque le nombre de nouveaux cas de cancer du sein en France est à peu près 53 à 54 000 nouveaux cas par an. Et dans le monde, c'est à peu près 1 600 000, comme vous l'avez dit. Ce cancer, qui est un fléau, touche pas seulement les femmes plus de 50 ans, mais touche également, malheureusement, les femmes plus jeunes, pour qui le dépistage doit être aussi ciblé. Et d'où l'intérêt peut-être du mois d'octobre rose, mais on ne doit pas se borner qu'au mois d'octobre, mais toute l'année, on doit rester vigilante au niveau des professionnels de la santé et des médias, afin que l'ensemble des femmes consultent et la moindre anomalie déclencher des examens complémentaires pour dépister le plus précocement possible le cancer du sein, car on sait que le pronostic d'un cancer est lié à son stade. Plus c'est dépisté tôt, mieux sera le traitement et plus la guérison sera possible.
D'où l'intérêt donc de ce dépistage. Avant la mise en place de ce dépistage organisé, je le disais en début d'émission, seulement 30% des femmes concernées se faisaient dépister à titre individuel. Aujourd'hui, ce sont les 2/3, mais ça veut dire qu'il reste encore 1/3 qui ne le fait pas. Est-ce qu'on sait un peu pourquoi, comment mieux cibler ces populations? Et puis, je dirais, qu'est-ce que l'Institut Curie fait là-dessus?
Alors, 1/3 qui ne le fait pas, peut-être pour diverses raisons, soit par peur, première cause à mon avis. Deuxième cause, c'est manque de moyens. Et troisième cause, peut-être l'éloignement au niveau du réseau médical. Alors, au niveau du dépistage...
On va les reprendre les uns après les autres, la peur.
Voilà, la peur, c'est... J'entends parfois en consultation, « Oh non, je veux pas faire de maman, on va me découvrir un cancer. » Bon, c'est faire la politique d'autruche, parce que quand le cancer est très avancé, donc les moyens thérapeutiques sont aussi moins nombreux, et puis le pronostic est moins bon. La peur aussi de faire la mammographie, parce qu'on pense que la mammographie, donc c'est la radio des deux seins, c'est, la mammo fait mal. Alors, c'est vrai que la mammographie, c'est pas un examen très agréable, parce qu'on écrase les glandes mammaires entre deux plaques de radio.
Alors, donc c'est pas très confortable,
mais quand même, c'est très tolérable. Petite astuce, si possible, chez les femmes qui ne sont pas ménopausées, faire cette mammographie après les règles, où les seins sont moins gonflés, donc moins sensibles. Il ne faut pas négliger le rôle de la mammographie, car c'est le seul examen qui dépiste les petits cancers du sein, notamment les microcalcifications, qui sont des petites calcifications qu'on ne voit qu'en mammographie. On ne les voit pas en échographie, on ne les voit pas en IRM. Donc, c'est ces lésions qui peuvent être même des lésions précancéreuses qu'on dépiste et qu'on traite.
Cette mammographie, elle est souvent suivie d'ailleurs d'une échographie.
Alors, l'échographie, c'est un examen qui complète la mammographie, notamment pour les seins qu'on dit denses, les seins qu'on dit mastosiques, les seins qui sont glandulaires, qui sont difficiles à palper. L'échographie oriente la mammographie, qui dit est-ce que derrière ces glandes mammaires denses, il n'y a pas une tumeur éventuellement cachée qu'on ne peut pas palper. Donc, on agrandit à ce moment-là les clichés mammographiques par la suite d'une échographie. Alors, on parlait donc des dépistages de...
Alors, juste pour continuer sur les obstacles à ce dépistage, vous avez dit premièrement, effectivement, la peur. Donc, vous avez essayé de démonter cette peur. Deuxièmement, les questions du manque de moyens. Normalement, ce dépistage organisé est gratuit.
Oui.
Est gratuit pour la mammographie, mais justement pas pour l'échographie derrière, si elle est nécessaire, c'est ça ?
L'échographie n'est pas faite de façon systématique, de façon gratuite. Mais ce qui est très bien, c'est que la mammographie effectuée dans le cadre de dépistage sécurité sociale, il ne faut pas oublier que c'est une double lecture, c'est-à-dire c'est fait par deux radiologues à distance dont l'un ne connaît pas les conclusions de l'autre. Et au moindre doute, chacun des radiologues écrit au médecin traitant et à la patiente de la convoquer et de faire une échographie, voire une biopsie ou d'autres examens complémentaires.
Mais alors le paradoxe, c'est qu'après, cette échographie n'est pas remboursée.
Non, l'échographie n'est pas remboursée. L'échographie est remboursée. Si l'échographie est remboursée, parce que c'est sur une prescription, mais c'est pas gratuit.
Voilà.
C'est pris en charge 75% par la Sécu et si la personne a une mutuelle, 25% par la mutuelle. Mais c'est pas gratuit.
Mais c'est ça. Mais dans le tiers qui ne vient pas justement, qu'on n'arrive pas à toucher par ce dépistage, on voit bien que ce sont surtout des populations en situation de précarité qui justement n'ont pas de mutuelle.
C'est vrai. Mais cette population peut néanmoins bénéficier de dépistage par mammographie.
Donc c'est au moins...
À ce moment-là, on peut toujours, je pense, je parle à titre personnel, mais au nom de mes collègues aussi, on peut toujours trouver des solutions pour des personnes qui n'ont pas de mutuelle et on fera quand même... C'est pas l'échographie à ce moment-là qu'il faut faire. S'il y a un doute, il faut faire un prélèvement qui sera remboursé.
Qui lui sera remboursé. Voilà. Donc ça, c'est la question du dépistage, je dirais, organisé dans la population générale, je disais, à partir de 50 ans. Mais on sait qu'il y a des cancers qui se déclenchent plus jeune, et là, il faut savoir viser qui dépister, en gros, c'est ça ?
Voilà, alors juste un mot pour le remboursement, c'est que malheureusement, quand on a un cancer du sein, je parle pour les personnes défavorisées, puisque le cancer du sein est pris quand même à 100% par la Sécu. Donc voilà, ça c'est pour la première question.
C'est important de le préciser
voilà.
En France. En France, alors, on a la chance d'avoir un système de sécurité sociale qui fonctionne.
Alors du coup, pour le dépistage effectivement de masse, c'est puisque le pic de cancer du sein, c'est après 50 ans, vers 55 ans, dans la population générale, je parle, on commence les mammographies à titre de dépistage par la Sécurité sociale vers 50 ans. Ça, c'est le dépistage de masse. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la population générale, il y a une catégorie de personnes qu'on considère plus à risque. Ce sont des femmes qui ont malheureusement dans la famille des associations de cancer du sein sur plusieurs générations, ou des cancers de sein et de l'ovaire chez plusieurs personnes de leur famille, ou qui ont un cancer du sein chez un homme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un homme peut aussi avoir un cancer du sein. Et ces femmes, en fait, font partie des personnes à risque, qu'on appelle femmes à risque, notamment à l'Institut Curie, mais dans d'autres établissements spécialisés. Nous avons des consultations dirigées pour ces patientes, où on fait l'arbre généalogique, on fait, si la patiente est d'accord, une prise de sang, pour voir s'il y a une mutation, c'est une anomalie au niveau des gènes. Alors, s'il y a cette anomalie, ces personnes sont suivies complètement différemment par rapport à la population générale. C'est-à-dire que ces personnes ont des IRM mammaires, mammographie, échographie tous les ans. Et donc, de sorte à avoir un dépistage très très précoce. Et donc, la surveillance de cette partie de la population est complètement différente puisque la mammographie commence très tôt, même vers l'âge de 30 ans.
Mais en pourcentage de la population porteuse de ce gène, BRCA1, c'est ça ?
BRCA1, BRCA2, parce qu'on ne connaît que deux gènes, malheureusement. Il y en a sûrement d'autres, mais on ne connaît que deux.
Quel est le pourcentage de la population ?
Alors, ce n'est pas beaucoup, c'est vrai, parce que c'est à peu près 2% de la population générale. Mais il ne faut pas oublier que c'est des cancers du sein qui arrivent chez les femmes très jeunes, à ce moment-là. Donc, les femmes jeunes constituent quand même une entité à part, parce que non seulement le dépistage doit être fait différemment, et deuxièmement, le traitement doit être différent.
Que se passe-t-il après le diagnostic ?
Alors, une fois le diagnostic de cancer du sein, il faut rappeler que le diagnostic, c'est pas que l'imagerie. Un diagnostic de cancer, quel que soit le cancer, mais en l'occurrence le cancer du sein, doit être histologique, c'est-à-dire sous microscope. Donc, s'il y a une anomalie en la mammographie, on est orienté pour faire une biopsie. La biopsie est faite dans des centres spécialisés, donc on prélève un bout de glande mammaire sous anesthésie locale et on analyse au microscope. Et une fois le diagnostic fait, c'est un cancer du sein, mais un cancer du sein, c'est vague. Il faut savoir quel type de cancer du sein c'est. Parce qu'il y a plusieurs sortes de cancers du sein. C'est ce qui se passe dans les salles d'attente, quand il y a des personnes assises qui ont eu tous ces cancers du sein. Ils se parlent, mais en fait, personne n'a le même cancer. Donc, c'est ça
donc
aussi.
Donc, personne n'a le même traitement et elle s'étonne.
Voilà, elle s'étonne. Et après, parfois aussi, des situations difficiles, quand quelqu'un ne va pas bien, l'autre dit, moi aussi, j'ai eu un cancer du sein, je vais être comme celle-là. Donc, en fait, il y a plusieurs types de cancers du sein. On différencie les cancers du sein par leur multiplication cellulaire, c'est-à-dire leur grade, est-ce qu'ils sont sensibles aux hormones ou pas. Donc, en fonction des caractéristiques de cancer qui est faite sous microscope, on propose des traitements adaptés.
Et on reviendra, si vous voulez bien, sur les traitements radiothérapie, hormonothérapie, chimiothérapie.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons du cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose, le mois consacré à l'information justement sur cette maladie. On a au téléphone Patricia Nzolantima, qui est fondatrice de Kinshasa Rose, dont l'objectif est de venir en aide aux femmes atteintes de cancer du sein. Patricia Nzolantima, bonjour.
Bonjour Claire.
Expliquez-nous concrètement ce que fait votre association Kinshasa Rose.
Kinshasa Rose, c'est une association de plusieurs femmes quinoises qui se sont levées pour pouvoir sensibiliser et mobiliser les quinoises par rapport au cancer du sein. Pourquoi ? Parce que on a réalisé que plus de 60% de la femme congolaise n'est pas au courant de ce qui se passe par rapport au cancer du sein. Et la plupart se disent non, c'est de l'abcès, et donc elles ne prennent pas en charge cela. Et aussi parce qu'il n'y a aucune stratégie qui a été développée au sein par rapport à la lutte contre le cancer du sein, et nous nous sommes dit qu'il était temps de pouvoir se mobiliser, sensibiliser cette femme aux problèmes qui sont liés au cancer du sein. Raison pour laquelle, pour la première édition, nous avons décidé de faire ce marathon.
Alors justement, qu'est-ce que vous faites à l'occasion d'Octobre Rose?
En fait, tout le mois d'octobre, il y a plusieurs activités qui vont être faites autour du cancer du sein. Nous allons faire des campagnes de sensibilisation dans les écoles, dans les universités, également dans les lieux publics. Et tous les vendredis, nous organisons des Pink Fridays, les vendredis roses, où plusieurs sociétés vont se mobiliser et sensibiliser leurs compatriotes contre le cancer du sein. Et là, on a choisi les écoles. Pourquoi ? Parce qu'on réalise que en Afrique, il y a un taux d'analphabète qui est très élevé. Et généralement, les jeunes filles peuvent conseiller leur mère parce que tout se passe en famille. Les mères constatent qu'elles ont un problème dans les ganglions et de l'abcès et se disent, mais non, c'est un furoncle, mais c'est pas de furoncle, il s'agit peut-être d'un début du cancer. Et alors, on se dit, si nous sensibilisons les élèves et les jeunes filles dans les universités, dans les écoles, à leur tour, elles pourront aider leur mère ou leur tante ou les sœurs à pouvoir recourir directement au traitement lié au cancer du sein.
Et c'est ça, ne pas venir trop tardivement. Et sur la question du dépistage, on vient de parler longuement de la mammographie. Qu'en est-il de la disponibilité de cette mammographie à Kinshasa et puis en République démocratique du Congo plus généralement?
On a un gros problème par rapport à la mammographie parce que nous n'avions pas beaucoup de centres de mammographie. Et en même temps, la mammographie coûte pratiquement 60 dollars. Or, nous savons que...
400, redites-moi, pardon, excusez-moi de vous interrompre, Patricia, 400 dollars la mammographie?
60 dollars. Donc, à peu près 50 euros.
Oui. Oui.
50 euros.
Ce qui reste cher pour la population.
Pour la population, c'est très très cher. Et donc, 60 dollars, c'est le moins cher, hein, parce que vous avez d'autres centres qui vous le font à 100 dollars. 100 dollars, à peu près 80 euros. Et donc, il est quand même temps de pouvoir avoir plusieurs centres. Si nous avons plusieurs centres, cela va diminuer le coût de la mammographie. Du coup, ça va permettre à ces femmes d'aller se faire dépister beaucoup plus tôt.
Dernière question, Patricia Nzolantima. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités sanitaires se mobilisent sur cette question?
Actuellement, oui, parce que nous sommes en train de le faire avec le ministère de la Santé. Actuellement, je pense qu'il y a, cette prise de conscience, c'est-à-dire que nous devons tous se lever pour lutter contre le cancer des seins. Effectivement, les autorités actuellement se sont levées pour pouvoir adopter une stratégie qui sera liée à aider toutes les personnes souffrant du cancer du sein.
Merci beaucoup, en tout cas, Patricia Nzolantima. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Kinshasa Rose. Une réaction, docteur Nasrine Kalé. Il y a un bon travail, une bonne association, je dirais, entre médecins et associations sur ces questions de sensibilisation au cancer du sein.
Oui, c'est très très important le rôle des associations, parce que le rôle des médecins et tout professionnel de la santé, c'est une chose, mais les associations, quelles que soient leur dimension, font un gros gros travail, ce qui se passe à Paris, mais je suis très très heureuse d'entendre notre ami de Kinshasa, parce que c'est vraiment, c'est dans un autre contexte, les associations, c'est-à-dire que ça enlève le sujet tabou, ça enlève la peur, parce que les femmes parlent plus facilement dans les cas des associations
qu'un médecin.
Moi, par exemple, à l'Institut Curie, à la maison des patientes, moi j'y vais parce que j'aime bien discuter avec les patientes, et c'est complètement en dehors de l'hôpital, et c'est un lieu convivial où on fait du sport, du maquillage, et on a des réunions, et les femmes parlent, et c'est là en fait que le message passe.
Merci beaucoup. On a Fabrice qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo. Fabrice, bonjour.
Ok, merci.
On vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, j'avais juste des questions à poser sur le cancer du sein. Étant donné que l'année passée, il y a 2 ans de cela, une de mes cousines qui est décédée du cancer du sein, qui s'est compliquée, alors elle est décédée de cela. Alors, j'aimerais savoir... Comment, lorsque je vais dans les hôpitaux, je vois des mamelles, il y a des manuels là pour comment palper les seins. J'aimerais savoir, bon, pour les novices comme nous, s'il faut palper les seins, par exemple celle de ma femme, comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a vraiment le cancer du sein? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quels sont les signes avant-coureurs externes du cancer du sein?
Alors, justement, on va répondre peut-être d'abord à cette première question, docteur Nasrine Kalé. Les signes extérieurs du cancer du sein, c'est bien ça le problème, c'est que quand ils sont là, c'est que c'est déjà relativement avancé.
Alors, les signes extérieurs, ça peut être aussi localisé parfois, heureusement. Ça peut, avant tout, il faut pas forcément penser à une tumeur. C'est-à-dire que les signes extérieurs peuvent être une modification juste de la peau. C'est-à-dire une peau qui a une dépression, qui a des plis qui n'étaient pas normalement là avant. Ou une boule, bien sûr. Une boule, c'est au palpé qu'on le voit. Mais donc on va parler lors de l'autopalpation. Ça peut être aussi un écoulement mamelonnaire qu'il faut pas oublier, souvent d'un côté. Ça peut être aussi malheureusement une plaie sans raison, parce que ça c'est un signe de cancer qui est avancé à la peau, ou des ganglions qu'on palpe sous l'aisselle. Donc les signes extérieurs sont très variables, donc il faut être attentif à soi ou le mari de la patiente peut également, parfois c'est les conjoints qui dépistent.
Et donc, je me rends compte qu'il y a une anomalie. Voilà. Et alors justement la question de l'autopalpation, d'essayer de voir si justement on a une boule dans le sein.
Alors l'autopalpation c'est très important, parce qu'il y a des pays comme en Suède, où les femmes, il y a une campagne d'autopalpation. Et la femme elle-même, elle connaît mieux ses seins. Alors l'autopalpation, bien sûr, doit être bien faite aussi. Hein. C'est pas n'importe comment qu'il faut le faire. Pour les femmes qui sont réglées, c'est mieux de la faire toujours après les règles, où les seins sont moins gonflés. Il faut déjà regarder les seins de face dans une glace pour voir justement s'il n'y a pas de modification de la peau ou une modification du mamelon. Après, il faut palper les glandes mammaires avec la paume de la main et des doigts, bien plaquer contre la paroi thoracique, cadran par cadran, le sein étant un rond, donc il faut bien palper cadran par cadran.
S'il y a une... Cadran par cadran, c'est-à-dire quart par quart.
Voilà, quart par quart dans la rondeur du sein. Et s'il y a une boule qui ne bouge pas, qui est dure, qui ne fait pas mal en principe, je dis bien en principe parce qu'il y a des cancers du sein qui font mal, et qui ne se modifie pas avec les règles, en principe, c'est suspect. Il faut aussi, bon, bien sûr, palper les ganglions, hein, c'est-à-dire les croix axillaires, sous les aisselles. Et tout ganglion n'est pas cancéreux, mais c'est quand même un ganglion qui est là, qui a un duré, qui ne bouge pas, est suspect aussi.
Donc c'est intéressant, effectivement, cette autopalpation.
Très
et quand
important.
Il y a un souci, ne pas hésiter, quand
ne
on
pas
sent
hésiter.
Une boule, à consulter.
Oui.
On se retrouve, si vous le voulez bien, docteur Nasrine Kalé, dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler du cancer du sein. On a longuement parlé du dépistage, on en viendra dans la deuxième partie, justement, au traitement.
Priorité santé. Claire Hédon.
bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose, mois de mobilisation et de sensibilisation sur cette maladie. On en parle avec le docteur Nasrine Khaleh, gynécologue à l'Institut Curie. Et si vous avez envie de lui poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. On va parler maintenant plus précisément des traitements après avoir longuement parlé des questions de dépistage. Docteur Nasrine Khaleh, je l'ai dit, on a longuement parlé dans la première partie de cette émission de dépistage. Juste un dernier mot à propos de l'autopalpation, parce qu'on a eu pas mal de questions d'auditeurs là-dessus, dont certaines femmes qui font ça tous les jours. Non, c'est pas la peine. Vous dites tous les combien de temps l'autopalpation?
Tous les jours, ça n'a pas d'intérêt, parce que justement, il faut bien choisir son moment pour palper les seins. Après les règles, comme je l'ai dit, parce qu'avant les règles, les seins gonflent, soi-même, on a du mal à palper. Si quelqu'un est très, très assidu, je dirais tous les deux mois, après les règles, c'est bien. Sinon, chez une dame ménopausée aussi, tous les deux mois, c'est très
ça
bien.
Ça suffit, c'est voilà. Ça. C'est pas non plus.
Non plus tous les matins, sûrement pas.
Il faut pas non plus être obsédé. Nous avons au téléphone le docteur Madanili, qui est cancérologue au service d'hématologie et d'oncologie médicale au CHU de Bamako, au Mali. Docteur Madanili, bonjour.
Bonjour Claire Edon.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence du cancer du sein au Mali?
Merci. Tout d'abord, je remercie tous les auditeurs de RFI et vous-même particulièrement de me donner l'opportunité de parler du cancer du sein au Mali. Alors, nous n'avons pas de chiffres exacts sur toute l'étendue du territoire du Mali, mais pour vous donner une idée, il s'agit du premier cancer pris en charge dans les services d'hémato-oncologie médicale, là où je travaille, à Bamako. Et nous recrutons actuellement à peu près 350 nouveaux cas par an. Et par ordre de fréquence, c'est en réalité le cancer du col qui est le premier cancer fréquent au Mali. Et le cancer du sein, c'est le deuxième cancer chez la femme.
Et les femmes qui viennent vous voir, viennent-elles tardivement parce que justement, il y a peu de pratiques du dépistage?
Exactement, vous avez parfaitement raison. Malheureusement, actuellement, la majorité des femmes viennent à des stades avancés de la maladie. Et dans notre classification, on va dire médicale, du cancer du sein, nous recevons dans notre service, malheureusement, 80% des cas à des stades 3 et 4. Donc, très peu des stades 1, c'est-à-dire des stades initiales et prises en charge dans ces services.
Qu'en est-il justement de l'utilisation de la mammographie? On a entendu parler tout à l'heure du prix à Kinshasa à $60. Qu'en est-il pour vous au Mali? Et est-ce qu'il y en a simplement à Bamako et pas dans le reste du pays?
Là aussi, c'est une très bonne question. La mammographie est surtout utilisée pour les diagnostics, c'est-à-dire déjà il y a des signes, pas pour le dépistage. Et malheureusement, actuellement, tous les appareils de mammographie n'existent qu'à Bamako, dans la capitale du Mali. Et les prix, ça fait à peu près, ça varie entre 15 000 et 20 000 francs CFA, entre les centres, à peu près 50 euros maximum.
50 euros, donc un prix tout à fait comparable à Kinshasa. Une fois que le cancer du sein a été diagnostiqué, quels sont les moyens de traitement dont vous disposez?
Ah, par contre, ça c'est la très bonne nouvelle. Actuellement, et je dirais même depuis 2009, le gouvernement du Mali a fait un effort considérable dans la prise en charge des cancers de façon générale. Donc la chimiothérapie est subventionnée par le gouvernement du Mali. Tout le monde a accès gratuitement à la chimiothérapie.
Ah, c'est donc, très intéressant, ça c'est important. Vous êtes, je ne voudrais pas me tromper, mais probablement un des premiers pays d'Afrique subsaharienne à développer cette gratuité sur le traitement du cancer du sein.
Exactement. Alors, maintenant on va un peu nuancer. On a toutes les molécules de base standard. Vous savez, Claire Edon, comme le docteur Nasrine Khaleh, que je connais bien, qui m'a formé quand j'étais à l'Institut Curie, avant que le centre réguiné ne soit associé à l'Institut Curie. Actuellement, la seule difficulté qu'on a, c'est d'avoir accès à l'ensemble des thérapies ciblées, notamment l'herceptine dans certaines formes particulières de cancer du sein chez les femmes jeunes. Mais le gouvernement est en train de faire des efforts et très bientôt, nous allons avoir cette thérapie à Bamako.
Alors, la chimiothérapie donc est prise en charge par le gouvernement, ça veut dire une gratuité pour les patientes. On sait qu'il y a aussi de la radiothérapie ou parfois de l'hormonothérapie. Qu'en est-il là-dessus? Est-ce que vous avez un appareil de radiothérapie?
Exactement. Il y a un centre de radiothérapie qui a été construit avec un accélérateur linéaire. On a un appareil qui est fonctionnel et qui est depuis 2 mois.
Ah, on avance alors?
Énormément.
Grande satisfaction pour vous. C'est intéressant ce que vous venez de dire, Madame Illy, c'est que vous avez été formée à l'Institut Curie. Vous êtes venue donc pendant combien de temps en formation? C'est incroyable en formation avec vous, Nasrine Calais. Oui.
On n'a pas fait exprès.
En fait, moi, dans mon histoire, moi, je suis parti en France depuis 2002. Après ma thèse de médecine générale, j'ai été formé en oncologie médicale, comme les internes français. Donc, j'ai fait plusieurs hôpitaux rapidement. J'ai commencé par l'hôpital Tinon, dans le 20e arrondissement, puis l'Institut Gustave Roussy, et ensuite le centre René Higné, qui est actuellement rattaché à l'Institut Curie.
D'accord. Et vous avez fait le choix donc de retourner au Mali pour développer justement la prise en charge du cancer du sein?
Exactement. Et alors, ce qui est surtout important, en 2006, quand moi j'ai décidé de retourner complètement au Mali, je ne l'ai pas fait comme ça, je l'ai fait progressivement, en faisant une thèse en sans-douche que l'ambassade de France a décidé de ramasser l'Agence française de développement au Mali, parce que c'est l'ambassade de France qui a pris en charge cette bourse, où j'ai fait une thèse de science sur le cancer du sein entre Bamako et Paris pendant 4 ans. Donc ça m'a permis de prendre conscience des réalités sur le terrain. Et moi, j'ai eu la chance, avec mon patron, le professeur Diallo Dapa, politiquement, les ministres de la Santé l'ont écouté et le programme a été mis en place depuis 2009. Donc moi, je suis très heureux dans la prise en charge des cancers du sein actuellement au Mali.
Oui, vous avez l'impression que ça avance. C'est assez extraordinaire, effectivement, ce que vous nous racontez. Moi, je n'avais pas conscience que ça avançait autant au Mali. Quelles sont, je dirais, c'est quand même, j'imagine, encore compliqué pour vous. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Alors, première grosse difficulté, il n'y a pas assez de personnel qualifié. Déficit en formation. Ainsi, je vais profiter pour lancer vraiment un appel SOS au gouvernement du Mali pour qu'on recrute les médecins. Et partout où je passe, nous le disons, nous cesserons de répéter pour notre service. Et mettre un programme pour former les jeunes médecins en oncologie et pour faire des expériences comme la mienne. Mmh. Voilà, donc c'est ce qui va
première difficulté, manque de personnel soignant formé sur les questions d'oncologie. Autre difficulté.
Exactement. Autre difficulté, actuellement, nous avons des difficultés à faire les techniques d'immunohistochimie en anaphate au Mali. C'est-à-dire, nous sommes incapables sur place au jour d'aujourd'hui de dire qu'une tumeur exprime les récepteurs hormonaux ou non, et si ça exprime HRD ou non.
C'est ça. Pour que le grand public comprenne bien, ça veut dire qu'on n'arrive pas à savoir si ce traitement-là va être efficace sur la personne en question.
Exactement. On ne peut pas dire est-ce qu'il y a... Donc, il faut envoyer les prélèvements actuellement à l'extérieur. Mais c'est l'occasion aussi de remercier PCD, qui est une association d'anapath en France, donc qui est en train de s'investir au Mali et qui a déjà amené des anticorps au service d'anapath pour former l'équipe pour que ça soit dans la routine de tous les jours.
Dernière difficulté?
Dernière difficulté, nous sommes le seul service à République du Mali qui offre ces soins-là. Donc, les patients des régions, c'est compliqué. Donc, il faut que nous réfléchissions pour décentraliser dans de meilleures conditions cette prise en charge optimale du cancer du sein.
Docteur Nasrine Calais, une réaction par rapport à ça? Ça veut dire que l'Institut Curie forme justement des médecins des pays du Sud sur cette prise en charge du cancer du sein?
Oui, pas que des pays du Sud, de partout, même des pays du Nord. Et c'est très bien parce que c'est enrichissant dans les deux sens. Mes collègues d'Afrique, ils nous apportent beaucoup aussi. On apprend beaucoup d'eux et nous, on leur apprend, j'espère, aussi certaines choses. Je voulais juste réagir aussi, vu les difficultés des traitements qu'on peut pas avoir dans les pays en voie de développement, c'est important de savoir quel type de cancer du sein c'est, parce que parfois, on peut surtraiter une personne. Donc maintenant, le problématique actuel, c'est quand on a un cancer du sein, comme je vous ai dit, il y a cancer du sein et cancer du sein. tumeurs égales, il y a des femmes qui ne doivent pas avoir de chimiothérapie parce qu'on fait des études, on fait des calculs même.
Ça veut dire que la radiothérapie suffit dans ces cas-là ?
Voilà, parfois oui. Ou parfois, il ne faut pas tout de suite donner la chimiothérapie parce que le rapport, parce que la chimiothérapie, c'est aussi des traitements lourds. Donc, il faut voir le rapport bénéfice-risque à une patiente. Donc, c'est très important qu'il y ait une infrastructure, notamment dans ces pays-là, pour pouvoir bien analyser les tumeurs afin d'adapter le traitement qu'il faut. Donc, par exemple, les traitements ciblés que mon collègue parlait, c'est des traitements qui vont directement sur les cellules cancéreuses et ils n'ont pas d'effet secondaire comme la chimiothérapie. Ils sont très très bien tolérés. C'est des traitements très chers, je suis d'accord. Mais parfois, ça évite de faire une chimiothérapie. L'hormonothérapie, c'est des comprimés, c'est facile à prendre, c'est beaucoup moins cher que les chimiothérapies. Donc, s'il n'y a pas de laboratoire adéquat pour dire que cette tumeur est sensible aux hormones ou pas, c'est vraiment dommage parce que ça prive des traitements faciles d'accès, moins chers, certaines femmes.
Ça pourrait faire des économies. Voilà. C'est un bon argument pour vous, vis-à-vis du gouvernement, docteur Madanilic. J'imagine que vous l'avez déjà utilisé.
Pardon ?
C'est un bon argument de dire que finalement, avec des examens qui permettent de savoir comment traiter quel malade, ça permet aussi, en fait, à terme, de faire des économies.
Exactement. C'est une des conclusions de ma thèse de chance que j'ai réalisée. Parce qu'on s'est rendu compte que la moitié des patients que nous prenons en charge ici n'ont pas besoin de traitement hormonal. Donc, et c'est l'argument qu'on tient toujours devant les politiques.
Oui. C'est ça, dépenser un peu plus pour pouvoir faire des économies à terme. Oui.
Et c'est pas que sur le plan économique, c'est aussi au niveau qualité de vie, pour les choses exactement. Pour laquelle je suis très très sensible. C'est-à-dire qu'infliger à une patiente des traitements lourds, agressifs, si elle en a pas besoin, c'est quand même, au niveau qualité de vie, c'est quand même très dommage.
Merci beaucoup, docteur Madanilic. Je rappelle que vous êtes cancérologue au service d'hématologie et d'oncologie médicale au CHU de Bamako au Mali. C'était un plaisir de vous entendre et d'entendre les avancées dans la prise en charge du cancer du sein au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du cancer du sein avec le docteur Nasrine Khaled. Docteur Nasrine Khaled, je voudrais qu'on revienne un peu sur les traitements. On a commencé à parler radiothérapie, hormonothérapie, chimiothérapie. On progresse dans ces traitements et la chimiothérapie, maintenant, elle peut même être prise en comprimé. On n'est plus forcément obligé d'être à l'hôpital quand on suit ce traitement.
Oui, oui. Alors le traitement, premier traitement auquel on pense, c'est bien sûr la chirurgie dans les cancers du sein. La chirurgie, on essaye de plus en plus d'être conservatrice ou conservateur. Donc on n'enlève pas le sein à chaque fois, on n'enlève pas tous les ganglions maintenant parce qu'on a fait énormément de progrès justement pour les cancers du sein précoces de ne plus faire ce qu'on appelle le curage ganglionnaire qui donnait des effets secondaires. On enlève qu'un voire deux ganglions seulement. Et puis après il y a la radiothérapie qui sont des rayonnements qu'on donne par voie extérieure sur le sein. Avec des effets secondaires, peut-être qu'on reviendra dessus.
C'est-à-dire la
radiothérapie, c'est comme, je veux dire, pour banaliser, c'est comme un gros coup de soleil. Donc, on fractionne les rayons pour ne pas brûler, entre guillemets, la peau ni les organes de voisinage. Et donc, ça stérilise l'ensemble de la glande mammaire qui reste en place. Donc, la radiothérapie est presque toujours faite quand on garde le sein. Alors après, il y a la chimiothérapie. L'indication de chimiothérapie n'est pas faite comme ça, comme je l'ai dit. C'est sur l'étude de la tumeur et éventuellement, est-ce qu'il y avait des ganglions malheureusement touchés ? Malheureusement, parfois, il y a déjà des métastases. Donc les chimiothérapies sont, il y a tout un panoplie de médicaments en chimiothérapie, très très sophistiqués, très très coûteux aussi, qui peuvent être donnés par voie intraveineuse. Et maintenant, il y a aussi des chimiothérapies en comprimé, qui peuvent être données avec la même efficacité, notamment pour des femmes qui ont des difficultés, notamment dans les pays en voie de développement. Puis après, il y a des traitements aussi très très coûteux qui sont des traitements ciblés, comme j'en ai parlé. C'est des traitements qui vont directement sur les cellules cancéreuses, mais pour ça, il faut vraiment avoir le laboratoire derrière qui analyse la nature de la tumeur pour voir si ces traitements ciblés sont efficaces. Puis enfin, il y a l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, en fait, c'est un mauvais mot, c'est une anti-hormonothérapie. C'est-à-dire qu'on analyse la tumeur pour voir s'il est sensible aux hormones féminines. Et l'idée, c'est de donner une anti-hormone féminine, une anti-estrogène, qui bloquerait l'ensemble des cellules cancéreuses dans le corps de cette patiente. C'est un traitement facile à prendre et pas cher.
On a Abdoulaye qui nous appelle de Freetown en Sierra Leone. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute.
En fait, depuis 2010, ma mère subit des traitements du cancer du sein à l'hôpital Lodantec au Sénégal. Elle a été opérée à Conakry, chose qui ne devrait pas se faire d'après les docteurs au Sénégal. Et maintenant, elle est retombée malade au début de cette année. Elle ressent des douleurs, clairement des douleurs dures. Maintenant, je voudrais savoir comment expliquer ces douleurs qu'elle ne ressentait pas au début.
Alors, docteur Nasrin Kalé, c'est très compliqué de répondre à distance, mais je trouvais que c'était important de prendre la question d'Abdoulaye sur la question de la prise en charge de la douleur. Est-ce qu'on progresse justement dans cette prise en charge de la douleur ?
Oui, oui, en tout cas en France, énormément, il y a une sensibilisation de l'ensemble du corps médical à la douleur. Maintenant, moi je vois à l'Institut Curie, on n'a pas de patientes qui souffrent, on a des consultations spécialisées douleur, et parfois il suffit juste d'ajuster le traitement, au lieu de prendre plusieurs médicaments antidouleurs, on en prend un et la patiente est soulagée. Alors, juste un mot, c'est pour dire que quand on diagnostique un cancer du sein, c'est pas forcément obligé et parfois il faut pas opérer, comme disait Abdoulaye, et parce que malheureusement, parfois la maladie n'est pas localisée. Comment on sait que la maladie n'est pas localisée ? C'est le rôle de l'oncologue ou du médecin de faire un bilan avant d'entreprendre un traitement pour voir si éventuellement il n'y a pas d'autres localisations, donc des métastases ailleurs. Donc ces cancers-là, ils doivent bénéficier d'une chimiothérapie. Alors la douleur peut intervenir bien sûr à différents niveaux de la maladie cancéreuse. Il y a certains cancers qui, dès le départ, on dit toujours dans la population générale, si vous avez une boule qui fait mal, c'est pas méchant. Non, c'est pas vrai. Il y a des cancers qu'on appelle en poussée inflammatoire ou évolutif qui font mal. Donc déjà, la douleur peut être présente d'emblée lors du diagnostic. Après, la douleur peut être présente après la chirurgie due bien sûr à la cicatrisation, mais aussi aux douleurs neurologiques parce que le chirurgien, lors de son opération, était obligé de couper les ramifications nerveuses. Ces douleurs sont très très bien gérées par des pompes antidouleurs, des médicaments qu'on donne après la chirurgie, à la demande, donc après ces douleurs disparaissent. Les douleurs peuvent également apparaître après la radiothérapie, parce que le sein durcit, les organes de voisinage, notamment les ligaments et les muscles durcissent, on peut avoir des douleurs au niveau des épaules, au niveau de la paroi du thorax. C'est des douleurs qui sont traitées par des traitements antidouleurs, mais aussi par tout un panoplie de traitements à côté, notamment les kinésithérapies, les drainages lymphatiques et des massages. Puis malheureusement, les douleurs peuvent être dues aux métastases, notamment pour le cancer du sein, les métastases osseuses.
Ça veut dire que le cancer s'est répandu.
A progressé et qu'il y a d'autres localisations donc, que le sein. Et donc, il y a des cellules cancéreuses qui sont sur les os. Alors évidemment, si c'est les os du bassin, les os au niveau des vertèbres, c'est très douloureux lors de chaque mouvement. Donc, ces localisations, ces douleurs sont traitées d'une part par le traitement spécifique de cancer, c'est-à-dire par chimiothérapie et radiothérapie sur les localisations osseuses, mais également par des traitements antidouleurs. Alors les traitements antidouleurs, maintenant, c'est dans des consultations de douleur, c'est très très, je dirais, répandu. On donne des patchs, la patiente gère elle-même, c'est comprimé. Il y a même des sticks comme des sucettes qu'on peut sucer au niveau de la bouche, et donc ça calme très vite et très,
c'est quoi,
très bien.
C'est beaucoup de médicaments à base de morphine.
Souvent, c'est des antalgiques de palier 3 à base de morphine, mais on n'est pas forcément obligé de passer tout de suite aux antalgiques 3. Il faut juste adapter le parce que c'est une affaire, je pense, d'un médecin spécialiste antidouleur. Donc je dis ça aux patientes qui souffrent, il ne faut pas hésiter de dire que j'ai mal et aller voir ces consultations. Parfois, on prend moins de médicaments avec un soulagement plus important.
Tout à fait. Abdoulaye, donc le conseil, c'est effectivement de retourner voir votre médecin en parlant, enfin pour votre maman, en voyant bien et en parlant de cette douleur. Simplement, on sait que la question de la disponibilité de la morphine dans de nombreux pays africains, exact, est compliquée et n'existe pas. Donc, c'est particulièrement difficile. Bon courage à vous et surtout à votre maman, Abdoulaye. On a Gérard qui nous appelle de Lomé au Togo. Gérard, bonjour.
Bonjour, docteur, bonjour.
On vous écoute.
Oui, je voudrais savoir s'il y a un rapport entre le cancer des seins et le cancer de l'utérus.
Alors, docteur, dites-nous ça. Docteur Nasrin Kalé, est-ce qu'il y a un lien entre cancer du col de l'utérus et cancer du sein ?
Alors non, c'est l'inverse. Je pense que le cancer du sein, il y a des facteurs de risque pour le cancer du sein qui sont les facteurs qui sont justement contre le cancer du col de l'utérus. Grosso modo, le cancer du col de l'utérus comme on sait, dans la presque toujours, c'est dû à un papillomavirus. C'est un virus qu'on attrape par les rapports sexuels. Et le cancer du sein est beaucoup plus fréquent chez les femmes qui n'ont pas eu de rapport. Donc, il n'y a pas de rapport direct, c'est l'inverse. Donc, les femmes qui ont eu des enfants, qui ont allaité et qui ont eu des enfants jeunes, sont plus protégées pour le cancer du sein. Et l'inverse, les femmes qui ont eu des rapports précoces et qui ont eu beaucoup d'enfants, ils sont malheureusement plus sujettes à faire des cancers du col par le biais d'exposition au virus papillomavirus.
Merci beaucoup, Gérard, de cette question. Quelles sont les chances de guérison après un traitement de cancer du sein, docteur Nasrin Kale? Vous allez me dire, tout dépend du cancer, c'est ça, j'imagine. Oui. Mais répondez-moi de façon générale quand même.
Alors, les chances de guérison, bon, en oncologie, on n'ose pas parfois parler de guérison parce que malheureusement, on voit des choses très parfois dramatiques. Mais les chances.
Donc, on parle de quoi? De rémission?
On parle de rémission, rémission totale. Donc, plus, alors, les rémissions, et il y a certaines formes de cancer du sein où on en guérit, bien sûr. Les cancers, par exemple, in situ, qui sont dépistés par les mammographies sur des microcalcifications, elles sont guéries. C'est les seules formes de cancer dont on peut vraiment parler de guérison. Les autres, la guérison dépend, bien sûr, de stade de cancer. Plus c'est précoce, plus on a de chances de guérir ou de, en tout cas, être en rémission totale. Et le temps aussi. Plus on est loin de la maladie, mieux c'est.
On va justement maintenant parler, je dirais, de l'après-cancer, de l'après-traitement en tout cas. On a au téléphone Nathalie Stamoulis. Bonjour Nathalie Stamoulis.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Claire Horizon. Vous organisez un événement, une journée de réconfort pour les femmes après les traitements du cancer. D'abord, quel est l'objectif de cette journée et comment ça se déroule?
Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité pour cette émission, de me permettre de m'exprimer sur la journée de l'amour. L'objectif de la journée, effectivement, c'est une journée donc de réconfort et de bien-être pour les femmes après le traitement du cancer. Lors de cette journée, nous faisons un coaching mieux-être. Nous leur donnons des informations sur la nutrition et l'exercice physique. Surtout, nous les remobilisons pour qu'elles prennent soin d'elles, pour qu'elles, effectivement, elles changent si besoin leur comportement en matière de nutrition et d'exercice physique, puisque maintenant on sait que statistiquement, il y a moins de chances de récidive chez les femmes qui pratiquent une activité physique et qui ont une alimentation saine.
Et donc, qui vient à ces journées?
Alors, ce sont des femmes qui ont eu effectivement les traitements du cancer, qui ont plus de 18 ans. La plus jeune participante à nos journées avait 19 ans, la doyenne avait 72 ans. Il y a environ 150 femmes qui ont déjà participé à ces journées dans toute la France. Et elles s'inscrivent sur l'internet, sur le site www.lajournedelamour.com.
Et c'est quoi? C'est gratuit?
C'est gratuit, c'est une journée gratuite, tout à fait.
Et les prochaines journées, je vous ai coupé la parole.
Oui, donc à Lyon le 30 novembre et à Nice le 7 décembre.
Docteur Nasrin, quelle est une réaction par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on dit à une femme qu'elle est en rémission, que tout va bien, qu'on arrête tout traitement? On la laisse dans la nature un peu?
Alors c'est justement, c'est le moment de panique parce que pendant tout le traitement de cancer, même si c'était très dur, la patiente est prise en charge par le médecin, par l'équipe soignante, par l'infirmière, enfin des hospitalisations, les examens complémentaires. Et une fois que c'est fini, quand je leur dis on se voit dans 6 mois, là c'est la panique générale en disant mais qu'est-ce qui va m'arriver? Donc c'est ce moment délicat aussi, c'est très délicat parce que la patiente a peur de ne pas être suivie et elle a complètement oublié son état antérieur avant le cancer. Donc du coup elle panique, c'est vrai.
D'où l'intérêt d'ailleurs de ce genre de journée.
Voilà. Alors ce genre de journée c'est très 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 bien. Il y a d'autres associations, il y a la maison des patientes. Il y a d'autres firmes, même des grandes marques qui organisent des choses. Je trouve ça très, très bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que les traitements de cancer modifient physiquement la patiente. Et l'apparence compte énormément. Donc, les modifications physiques touchent la patiente, mais son entourage familial, la société et l'entourage professionnel. Donc, tout ce qu'on fait pour aider, comment se maquiller dans cette période de transition, le temps que les cheveux, les cils poussent, c'est très bien. Comment se maquiller, comment s'arranger, comment mettre son turban ou éventuellement sa perruque, c'est très bien. La question de sport aussi est très, très importante. Et le mode de vie, qu'est-ce qu'on mange et tout. Et puis, c'est des lieux de convivialité où la patiente ne se sent pas seule et c'est les relais pour le corps soignant.
Et justement, pour éviter les rechutes. Merci beaucoup, Nathalie Stamoulis. On mettra mettra toutes les informations sur ces journées glamour sur notre site internet RFI.fr dans la rubrique Priorité Santé. Docteur Nasrine Kalé, une dernière question que vous avez commencé à évoquer. Est-ce qu'on risque pas de diagnostiquer, traiter finalement des cancers qui n'auraient pas évolué? Est-ce qu'on se retrouve pas dans la même situation que pour le cancer de la prostate, où maintenant on sait un peu plus savoir ceux qui vont évoluer de ceux qui ne vont pas l'être? Est-ce où on en est dans le cancer du sein? Est-ce qu'on commence à avancer sur savoir quels sont les cancers qui risquent d'évoluer et ceux qui ne risquent pas?
Alors ça, c'est la grande incertitude. C'est le problème des mammographies très précoces, les mammographies répétitives, parce que les mammographies sont aussi des rayons, les rayons sont aussi cancérigènes. Donc il y a toute une polémique là-dessus. Mais personnellement, je pense que on ne surtraite pas les cancers très très précoces dans la mesure où très souvent, les états précancéreux ne bénéficient qu'un traitement chirurgical à minima. Et donc, ça évite l'angoisse. Et en tout cas, personnellement, je ne peux pas laisser un petit cancer du sein découvert comme ça, par hasard, tranquille, sans traiter.
Donc, c'est important pour l'instant de traiter. Mais à terme, on saura peut-être ce qu'on a besoin de traiter et de pas traiter. La recherche travaille encore
peut-être
sur ces
questions.
Peut-être,
la recherche travaille, j'espère.
Merci beaucoup, docteur Nasrine Kalé, d'être venue nous parler
Merci
du cancer du sein et de l'importance du dépistage dont on a longuement parlé dans la première partie de cette émission à l'occasion d'Octobre Rose. Demain, on parlera de la prise en charge des militaires blessés dans les zones de combat. Vous pouvez d'ailleurs, si vous avez envie de nous faire part de vos questions, soit au 33 1 84 22 75 75, soit sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, à Cétou Samaké, Jeanne Cherquefosse, Jonathan Brédy et Laurent Snow. Et à demain.